France Musique. Musicopolis. Début des années 1680, entre Paris et Versailles. En cette fin de XVIIe siècle, la vie des musiciens est très étroitement liée à la vie politique et aux endroits où s'exerce le pouvoir. La monarchie de Louis XIV utilise la musique pour rehausser sa gloire. Il est donc bien logique que les musiciens gravitent autour de son lieu d'exercice. C'est pourquoi Michel Richard de Lalande a effectué le début de sa carrière dans les années 1680 entre Paris et Versailles. Michel Richard de Lalande est tout jeune encore lorsqu'il compose ce grand motet Deitatis Majestatem, Majesté de la Déité. Il a 24 ans, puisque nous sommes en 1682. Justement, l'année où Louis XIV prend la décision d'installer sa cour à demeure à Versailles. Le grand motet est ce qu'on chante pendant la messe du roi. Alors que le prêtre dit la messe à voix basse devant l'autel, les musiciens interprètent la musique avec chœur et soliste. On peut s'étonner que le grand motet soit chanté en même temps que la messe est dite à voix basse. De deux choses l'une, ou bien on écoute la messe, ou bien on écoute la musique. Eh bien, nous avons là une particularité de la religion telle que pratiquée par Louis XIV. Bien sûr, il est très pieux et croyant. Après tout, il est roi de droit divin. Mais il n'est pas question pour autant que l'Église empiète sur sa souveraineté. Il faut la mettre au pas. Et donc, pour la messe royale quotidienne, il y a un aménagement par rapport à ce qui se fait à la ville. Le roi affirme ainsi l'autonomie de l'Église de France, placée sous sa propre autorité temporelle. Tout le monde, vers 1680, sait bien que la musique est un élément important du règne de Louis XIV. Et bien sûr, les musiciens sont les premiers à le savoir. Et ils se pressent donc pour servir leur roi, sachant que celui-ci ne lésine pas sur les moyens. Dans les années qui suivront la composition de ce motet Deitatis Majestatem, Michel Richard de Lalande va devenir l'un des musiciens favoris de Louis XIV. Il va bientôt concentrer entre ses mains tous les postes importants de la musique du roi. Dans moins de 10 ans, en 1690, le souverain va demander à ses copistes de réunir les motets de Lalande pour les conserver dans de magnifiques volumes dans sa bibliothèque. Un honneur insigne. Alors voyons donc un peu comment s'est passée cette ascension fulgurante. La formation de Michel Richard de Lalande s'est faite dans une maîtrise, la plus prestigieuse sans doute, celle de Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris. Prestigieuse parce que c'est la paroisse du Louvre et que par conséquent, on y fait une musique qui va être entendue par de grands personnages. Michel Richard est le 15e enfant de la famille Lalande ou de Lalande. Vous constaterez en effet si vous cherchez sa musique qu'elle apparaît parfois à la lettre D, parfois à la lettre L. J'ai choisi plutôt l'orthographe Lalande, puisque c'est celle qui est donnée par le Centre de musique baroque de Versailles, ma foi bien placée pour être renseignée. Donc, le petit Lalande, 15e enfant d'une famille de marchands tailleurs, donc pas trop fortuné, est placé dans une maîtrise. Les maîtrises, à cette époque, élèvent des petits garçons à partir de l'âge de 7 ou 8 ans, les forment en musique, avec un peu de latin aussi, et les font chanter jusqu'à la mue. Il paraît que le petit Lalande a « la voix belle », selon son maître de musique qui le choisit pour chanter les solos. « Les curieux », dit son biographe, « venaient l'entendre avec empressement ». Dès ces temps-là, nous dit le premier biographe de Lalande, en parlant de l'époque où il est à la maîtrise, il aimait l'étude avec excès. Et son enfance a été le prélude de cette profonde application avec laquelle il a cultivé son art jusqu'à la mort. Non seulement il a appris la musique, mais encore à jouer de toutes sortes d'instruments, dont il saisissait tout d'un coup l'intelligence. Son ardeur pour l'étude était si vive que de ses petits profits, il achetait de quoi s'éclairer pendant la nuit. Souvent, il la passait à travailler à la composition ou à s'exercer aux instruments que par une sorte d'intempérance d'études ordinaire aux enfants dont l'esprit est prématuré, il voulait apprendre et connaître tout à la fois. Cependant, le temps vint qu'il perdit sa voix, comme il arrive ordinairement à l'âge de puberté. Monsieur Chaperon, son maître, qui se faisait honneur d'un si bon sujet, fut extrêmement touché de sa retraite. « Que peut donc faire un petit choriste lorsqu'il perd sa voix et se voit obligé de quitter la maîtrise qu'il a accueillie pendant toutes ses années d'enfance ? Certains entrent dans le clergé, d'autres se trouvent carrément un autre métier. Pour les plus musiciens, qui ont profité au maximum de leur formation, ils vont sans doute retourner dans leur famille le temps de se faire une petite place. Ils vont continuer à prendre des leçons s'ils le peuvent, puis ils vont tenter leur chance dans les différentes institutions musicales, les chapelles, publiques ou privées, les musiques des nobles, certains collèges. Le jeune Marin Marais, qui a été choriste à Saint-Germain-l'Auxerrois, juste en même temps que Lalande, a continué à travailler la viole, son instrument de prédilection. Et à 19 ans, il jouait dans l'orchestre de l'opéra. Son camarade, Lalande justement, lui aime par-dessus tout le violon. Il s'est lui aussi présenté à Lully pour jouer à l'opéra, mais il n'a pas été pris. Et il en fut piqué si vivement, nous dit-on, que de retour chez lui, il brisa l'instrument et renonça pour toujours au violon. Si le jeune Lalande n'a pas réussi à entrer à l'orchestre de l'opéra et qu'il en a certes conçu du dépit, sa vie ne s'arrête pas pour autant. Il est recueilli par l'un de ses beaux-frères, homme à son aise, qui pour le faire connaître va donner chez lui deux fois par semaine des concerts, fort goûtés des connaisseurs et fort suivis. On y chante déjà ses ouvrages. Le jeune Lalande se fait connaître d'un petit public de connaisseurs grâce à son beau-frère. Il cherche aussi à se trouver un poste. Puisqu'il n'a pas eu l'heure de plaire avec son violon à M. Lully, qui fait alors la pluie et le beau temps en musique à Paris, qu'à cela ne tienne, il se rabat sur les claviers, orgue et clavecin. La maîtrise n'a sans doute pas organisé des journées de la profession, comme cela se fait aujourd'hui au conservatoire, pour informer les jeunes musiciens des débouchés et pour les aguerrir aux stratégies de recherche d'emploi. Mais on peut se douter que les membres de la corporation se parlent entre eux. Il est probable que Chaperon, le maître de musique de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui aimait tant le petit Lalande, lui a expliqué les rouages des institutions et ce qu'il faut faire pour monter petit à petit. Chaperon lui-même, d'ailleurs, a joué à la Sainte-Chapelle, où il a été muté, les leçons de ténèbres de son élève. Toujours est-il que le jeune homme cherche un emploi comme organiste. Il se présente même pour le poste d'organiste royal. Lully le trouve apte, mais Louis XIV tranche trop jeune. Qu'à cela ne tienne, il trouvera des tribunes en ville. Le jeune Michel Richard de Lalande va avoir jusqu'à 4 tribunes d'orgue en même temps à Paris. On se demande un peu comment il s'arrange. Il a sans doute des remplaçants qui assurent les services les moins importants. Il travaille aussi dans des collèges de jésuites, pour qui il écrit même quelques tragédies en musique. Et il donne des leçons de clavecin. D'abord à la fille du maréchal de Noailles, qui bientôt le recommande au roi, qui cherche quelqu'un pour enseigner l'instrument à ses filles, du moins deux de celles qu'il a eues avec Madame de Montespan. Voilà notre musicien dans la place, toujours studieux et assidu. D'après son biographe, Sa Majesté lui faisait alors composer de petites musiques françaises qu'elle venait examiner elle-même plusieurs fois le jour et qu'elle lui faisait retoucher jusqu'à ce qu'elle en fût contente. On laisse à juger combien l'avantage de travailler ainsi sous les yeux de son roi est capable d'ouvrir le génie et de porter à l'étude un sujet qui, de lui-même, y était déjà si adonné. Thank you. C'est donc en 1682, année de l'installation de la cour à Versailles, année où Louis XIV commence à songer sérieusement à réorganiser sa musique religieuse, que Lalande compose son motet « Deitatis Majestatem ». Il a sans aucun doute été du goût du roi, puisque lors du concours qui vise à distribuer les quatre postes de sous-maître de la chapelle, il se relaye tous les trimestres, un concours organisé un an plus tard, le souverain va lui-même pousser Lalande pour qu'il en obtienne un. Au fil du temps, Lalande aura intégralement conquis le cœur du roi. Il sera bientôt seul en possession des quatre postes de la chapelle et aussi des quatre quartiers de compositeurs de la musique de la chambre. Sa carrière a suscité l'envie, certes, mais il est resté d'un caractère modeste. Le moindre éloge le faisait rougir, nous dit son biographe. Son caractère était droit et civil, peu courtisan, mais toujours prêt à rendre ce qu'on doit au mérite et à la naissance. Le motet « Deitatis Majestatem » de Michel Richard de Lalande, avec Emmanuel Denegri et Dagmar Saskova soprano, Sean Clayton haute contre, Cyril Ovitti ténor, André Morche basse, Le Chœur à Edès, le poème harmonique, dirigé par Vincent Dumestre. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Claire Lagarde pour la réalisation et Pierrick Charles pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.